Bonsoir à tous.
Merci. Donc je suis Guillaume Kosmicki, je vais avoir l'honneur d'introduire ce concert puisque Joël Léandre a eu la gentillesse de m'inviter à placer quelques propos sur mon dernier livre qui la concerne parce que j'ai dans ce livre une interview de Joël Léandre, mais qui concerne aussi ces musiques que vous allez entendre ce soir, ces musiques improvisées. Donc j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette soirée avec ce thème-là. Je remercie beaucoup, bien sûr, Hélène Aziza d'avoir accepté de m'accueillir aussi, et bien sûr Marc Ducré qui a aussi quelques rapports plus lointains, mais tout de même aussi avec le projet de ce livre dont je vais vous parler. Alors, il s'agit d'un livre qui s'appelle Musique savante. Ça en impose, effectivement. C'est un titre qui peut éventuellement, peut-être un petit peu inquiéter, d'autant plus que c'est en plus le dernier volet d'un gros travail qui m'a pris 6 ans, que j'ai démarré en 2012, avec 3 volumes de musique savante, bien écrasant. 3 volumes qui concernent en fait l'histoire de ces musiques dites savantes, et on va en parler un tout petit peu, au XXe siècle, un gros XXe siècle, puisqu'en fait je fais débuter le premier volume en 1882, avec un compositeur, avec Debussy, enfin avec Liszt, avec quelques compositeurs de cette période-là. Et puis je vais jusqu'en 2015 avec ce dernier tome qui est sous-titré de John Zorn à la fin du monde et après. Voilà. Alors dans ces ouvrages, je vous expliquerai bien sûr pourquoi j'ai interviewé Joël, notamment dans ce dernier tome qui termine par un certain nombre d'entretiens. Mais dans ces ouvrages, en fait, ce que je fais, ce que je fais habituellement dans mon travail de musicologue, parce que je suis musicologue avant tout, c'est de croiser l'histoire des musiques avec l'histoire, avec un grand H. Donc à chaque fois, dans chacun des 3 tomes, j'ai premier tome croisé. Donc j'ai un sous-titre qui parle de ça, en fait. Le premier, c'est de Debussy au mur de Berlin, donc ça court jusqu'aux années 60. Le deuxième, c'est de Ligeti à la fin de la guerre froide, ça court jusqu'en 89. Et donc celui-là, c'est John Zorn à la fin du monde, parce que la fin du monde, on en a entendu parler largement autour de l'an 2000, de l'an 2012, etc. Donc c'était l'événement historique qui me semblait intéressant à relever ici. Pourquoi donc Joël a fait partie de ce projet? Pourquoi est-ce que j'ai interviewé un certain nombre de personnalités musicales dans le cadre de ce projet? Alors déjà, première chose, c'est que j'ai pris musique savante dans un sens très large et que j'ai choisi ce titre-là, ce thème-là, ce terme-là, à défaut de mieux, parce que, évidemment, c'est assez plombant, hein, on l'a dit, on l'a vu, mais il y a pire, et j'aurais pu choisir, les grandes musiques, j'aurais pu choisir, je ne sais pas, les musiques sérieuses, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Ce que j'ai voulu dire par musique savante, c'était le moins pire pour moi, c'est en fait des musiques d'une certaine exigence, qui ont un rapport avec l'expérimentation, avec la prospection, un rapport avec effectivement cette envie de déchiffrer, de creuser des nouveaux territoires. Et donc je l'ai pris dans un sens très large. Effectivement, il y a des compositeurs de l'écrit, pour la première période, on va dire Debussy, Stravinsky évidemment, Bartok et un certain nombre d'autres. Pour la deuxième période, il y a Boulez, il y a Stockhausen, évidemment, il y a Cage aussi, déjà, qui est un compositeur un peu différent. Et puis, pour la dernière période, on y trouve des compositeurs d'aujourd'hui, toujours vivants pour la plupart, des compositeurs qui font la musique écrite aussi aujourd'hui. Mais à chaque fois, j'ai ouvert, parce que ça me semble nécessaire, surtout dans notre époque aujourd'hui, d'ouvrir le champ. Il y a plus les frontières qu'on a connues avant, il y a de moins en moins ces frontières-là, et c'est tant mieux. Donc j'ai mis dans chaque tome, en fait, des exemples de jazz. Dans le deuxième tome, il y a des exemples, il y a même un album des Beatles, il y a Sgt Pepper qui me semble être une musique savante avec un grand nombre d'acteurs qui ont façonné un album absolument fantastique qui a effectivement une part d'expérimental extrêmement importante. Il y a Pink Floyd, on y trouve dans ce dernier tome, on y trouve un album de Björk, on y trouve des propos sur Aphex Twin, et on y trouve le jazz, on y trouve Anthony Braxton, on y trouve beaucoup de ces acteurs du jazz qui pour moi fait entièrement partie de cette même aventure, de cette même exigence, on va dire. Et donc, comme il fallait conclure, comme il fallait dire un « et après », j'ai eu du mal à assumer seul cette conclusion que je devais donner à mes 3 ouvrages, à 1200 pages quand même. Donc j'ai choisi de faire parler aussi des acteurs de la musique, hein, en plus de ma propre voix. Et donc Joël était de ceux-là. J'avais aussi imaginé, c'est pour ça que je vous disais que Marc était aussi quelque part suscité au début du projet, j'avais imaginé aussi faire parler Marc que j'avais rencontré au sortir d'un concert. Alors lui avait été assez réticent à l'idée d'une interview. Il dit tout est dans ma musique, on doit prendre là, et puis il avait aussi une méfiance par rapport à ce qu'on peut faire de la parole, ce qui est vrai, on peut toujours aussi déformer les propos. Enfin moi je fais toujours des allers-retours, pour le coup j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec Joël. Et ce qui s'est passé, alors pour l'interview de Joël, elle est aux côtés de Franck Madlener, qui est directeur du LURCAM, elle est aux côtés du Kronos Quartet, elle est aux côtés d'autres musiciens de la musique contemporaine, d'autres acteurs de cette grande aventure. Ce qui s'est passé avec Joël, c'est qu'elle m'a donné rendez-vous le lendemain d'un concert dans un hôtel à Brest, 8h du matin. Donc ça, c'est assez inhabituel pour moi pour les interviews. Après un concert, bon, un concert qui était fantastique de musique improvisée, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et moi, je suis arrivé, alors un peu intimidé quand même. Bon, on y va. Un entretien bien organisé, avec des thèmes bien équilibrés. Enfin, j'avais bien pensé ça en amont depuis longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que la tornade Joël Léandre m'a répondu à toutes mes questions, mais je crois dans un désordre absolu. C'est-à-dire, quand je lui posais une question, à chaque fois, il y avait une réponse qui ne semblait absolument pas correspondre avec la question que j'avais posée. Donc, c'était de la pure improvisation, comme ce qu'on va voir ce soir. Je crois qu'elle ne peut pas s'empêcher dans sa vie, dans ses propos, dans sa manière d'être. Enfin, il y a toujours ça. Et je suis sorti de là très décontenancé, mais en même temps pris dans ce tourbillon de paroles. Elle nous a fait déplacer, changer de table plusieurs fois. Enfin, c'était très complexe, hein, vraiment. Il y avait aussi un jeu musical de chaises musicales, en fait. Hein. Les musiciens se levaient pour déjeuner, ils étaient un petit peu fatigués. Alors à chaque fois, mais c'est un scandale, on ne va pas leur parler de tout ça. Puis on s'en allait un peu plus loin. Enfin, c'était complexe. Et je me suis rendu compte qu'elle avait quand même répondu à toutes mes questions, mais vraiment dans le désordre absolu. Donc j'ai rééquilibré tout ça. Enfin, ça a été une longue histoire. Et effectivement, hein, purement improvisé, je crois, comme elle est. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres intervieweurs. Il y a Franck Medioni qui a écrit un ouvrage à voix basse qui est là-haut ce soir aussi dans les livres sur Joël Léandre. Avec tous ceux à qui j'ai pu discuter, ils ont tous vécu la même expérience. Donc je crois que voilà, on s'est retrouvés dans ce genre d'expérience particulière qui a complété. Vraiment complètement ce que je voulais entendre de cette manière dont cette musique va persister, continuer à vivre, continuer à exister. Moi, je relis ça à l'histoire à chaque fois parce que dans ma fonction de musicologue, j'estime au plus profond de moi-même qu'il n'y a aucune musique inutile déjà, et que les musiques ne sont absolument jamais détachées d'un contexte social, d'un contexte politique, d'un contexte historique, d'un contexte géographique, d'un contexte psychologique, et que tout ça est extrêmement important pour comprendre ces musiques, pour comprendre ce qu'elles font. Alors certains diront que d'en parler, ça va les tuer, ça va dire autre chose. Alors c'est possible aussi, mais enfin moi je pense que ça les fait vivre aussi, parce que la musique, c'est aussi parler de la musique, c'est aussi vivre la musique, c'est aussi la vivre dans ses, dans ce qu'on est, dans toute son vécu, son passif, son expérience. Et donc c'est pour ça que c'était très important pour moi d'avoir aussi ces paroles du vivant, ces paroles de musicien, et puis de lier tout ça à ce monde tel qu'on traverse. Donc quand je parle d'une fin du monde, quand je parle d'un et après sur cette toute dernière période, bah, évidemment je parle aussi d'un monde qui a complètement été transformé par l'arrivée de la chute du mur de Berlin, la fin d'une vision du monde qui avait persisté sur des dizaines d'années, avec deux blocs qui expliquaient complètement l'histoire. On se retrouvait aujourd'hui dans un monde qu'on mondialisait, avec un néolibéralisme écrasant qui semble se profiler pour des siècles à venir, mais en vérité un certain nombre de contestations qui apparaissent. Et pour moi, la musique est toujours une forme de contestation, une forme d'utopie, une forme de vision d'un autre possible. Et je pense que ces pratiques improvisées, parce que ce soir, en plus, ce sera, eu la confirmation par les musiciens, ce sera totalement improvisé, bah, font aussi partie de cette forme d'utopie, de cette forme de contestation. Même si lorsque j'ai dit le mot politique à Joël, elle s'est aussi un petit peu énervé avec d'autres propos, mais il y a quelque chose d'extrêmement politique dans ce qui se vit dans ces musiques-là. Il y a aussi une affirmation de l'individu, une affirmation de l'individu en tant que lui-même, aussi en tant que son rapport à l'autre, son rapport à la communauté de l'humanité, au public et à son monde. Et en tout cas, c'est une expérience de cet ordre-là qu'on va vivre ce soir, sans ceinture. Hein, il n'y a pas de ceinture sur les sièges, vous voyez, il n'y a aucun parachute, rien sous les sièges. Vous allez vivre ça, on va le vivre tous ensemble. Ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer et on ne sait pas ce qu'on va entendre. Et j'espère qu'on va se régaler avec tout ça et j'en suis absolument persuadé. Je vous remercie beaucoup de votre attention.